Bonjour à tous. Avant de poursuivre, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la joie d'être tous réunis ensemble. Nous te remercions pour la joie que tu mets dans nos cœurs, pour le salut que tu as placé en nous, pour nous et pour la liberté que nous pouvons vivre au quotidien. Nous te remercions pour la paix que nous avons, que nous connaissons, parce que tous nos frères et sœurs n'ont pas cette chance de pouvoir connaître cette paix, cette liberté, de pouvoir se réunir et de pouvoir partager ensemble ta parole. Nous avons une pensée pour eux au moment d'ouvrir ta parole justement et de la méditer. Nous te prions que tu les fortifies, que tu les bénisses et que tu bénisses aussi les enfants en bas qui recevront encore quelque chose aussi de ta part ce matin. Sois encore aussi avec eux dans leur cœur et dans leur compréhension. Nous te prions pour que tu, maintenant, prépares nos cœurs, que tu les débarrasses de toutes les pensées qui pourraient nous empêcher de pouvoir être attentifs à ta parole, à ce que tu veux nous partager encore ce matin, dans la suite de ce culte. Nous te remettons ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, donc c'est les vacances en ce moment. Je ne sais pas ce que vous faites pendant les vacances, mais il y a plein de choses à faire. Je sais que chacun aime bien passer les vacances différemment. Il y en a qui aiment bien se reposer, par exemple. Bon, enfin, il y en a qui ont des drôles de manières de se reposer, ceci. Il y en a qui aiment bien aller à la plage. Bon, moi non, hein, pas comme ça, hein. Il y en a qui aiment bien aller marcher. Ça, c'est notre cas cet été, c'est ce qu'on a fait. Il y en a qui aiment bien tout simplement se poser et puis lire. D'autres qui aiment être plus actifs, qui préfèrent faire des activités sportives intenses. Bref, chacun ses goûts, chacun ses activités. En tout cas, en général, nous aimons bien... D'une manière générale, que ce soit en été ou que ce soit pour le reste de l'année, nous aimons bien varier nos activités, nous aimons bien que ce ne soit pas toujours la même chose que nous fassions, et nous aimons bien que ça change. Nous ne voulons pas quelque chose de trop monotone non plus. Avec Jésus non plus, la vie n'est pas monotone. Et quand on lit sa vie dans les évangiles, et quand on voit son parcours, eh bien, on se rend compte que, il ne s'est pas ennuyé. Et ses disciples non plus d'ailleurs. Et nous allons voir dans le passage que nous allons lire dans quelques instants que bien tantôt Jésus allait dans un endroit et il utilisait tel moyen pour toucher les gens et tantôt il allait dans un autre endroit et il se comportait, il utilisait un autre moyen pour toucher les gens. Et nous allons voir aussi que son appel pouvait varier selon les circonstances et qu'il désirait que ceux qui le suivent puissent être à la bonne place au bon moment. Alors je vous invite à lire tout de suite dans Marc, au chapitre 3. Ah, il n'y a pas le texte. Bon, c'est pas grave. Je vais vous le lire. Donc c'est en Marc 3, et ceux qui veulent lire, suivre, ils se rendront au verset 7. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit, de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ce passage commence avec, en fait, les versets d'avant. Jésus qui vient de guérir un homme qui a la main sèche et il fait ça un jour de Shabbat. Et accomplir une telle chose, eh bien, c'est transgresser, en fait, le jour du Shabbat. Parce qu'il a fait quelque chose qu'on ne fait pas, normalement, ce jour-là. Et du coup, celui qui transgresse le jour du Shabbat, eh bien, si on en croit strictement parlant la loi, eh bien, celui-là devait mourir. Aussitôt donc, les pharisiens cherchent à le faire mourir. Mais Jésus, lui, se retire. Il ne cherche pas à se faire bien voir. Il ne cherche ni à se faire comprendre, ni à discuter, ni à trouver un compromis, ni à entretenir la contestation. Non, la discussion est folle et inutile, et comme le serviteur de 2 Timothée 2:24, eh bien, il préfère ne pas rentrer dedans. Mais, aussitôt qu'il se retire vers la mer, Jésus est accaparé par les gens, par le faire. Sa mission n'était-elle pas là, d'ailleurs ? Faire le bien sans relâche ? Soulager les plus faibles, les plus démunis, les défendre, les protéger, les délivrer, les guérir, les sauver. Il aurait pu se faire abuser par la foule. Il aurait pu choisir de, quelque part, rentrer en fusion avec elle, se laisser manger, entre guillemets, par elle, à l'image de ces gens qui se jetaient sur lui pour le toucher. Parce que des besoins, il y en avait des tas et des tas. Ainsi, Jésus aurait pu se perdre dans son fer, pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de l'homme. Il aurait pu perdre son être, perdre le sens véritable de sa mission, de sa vie sur terre. Cela aurait pu être une tentation, pavée de bonnes intentions, de soulager tous les maux. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Sur sa barque, Jésus était seul, entre guillemets. Il pouvait rester lui-même et mettre une distance raisonnable avec les autres. Il pouvait être proche d'eux, sans l'être trop. Il pouvait ne pas se perdre dans les besoins collectifs pour rester lui-même et permettre aussi aux autres de rester eux-mêmes. Avec cette barque, il avait un refuge humain et social, alors que la montagne sur laquelle il va monter un peu plus tard est plutôt son lieu de refuge divin et social. Sur la barque, il était seul, mais avec les siens. Il pouvait se reposer, faire des choses anodines, comme par exemple pêcher du poisson et le manger tranquillement avec les siens. Il pouvait avoir une vie relationnelle simple. En tout cas, pas dans le stress et dans la pression de la foule. Avec la barque, Jésus va à l'horizontale. La barque symbolise ce qui relie les uns avec les autres. Elle symbolise le désir et la volonté d'aller à la recherche de l'autre, à la recherche de l'inconnu. La barque est une image du temple, quelque part, que Jésus nous demande à nos disciples de tenir à sa disposition pour lui permettre d'aller vers l'autre. C'est lui qui choisit les destinations. C'est lui qui dirige la manœuvre. C'est lui qui maîtrise aussi les éléments qui entourent notre navigation en eau trouble de ce monde. Et c'est nous qui l'accompagnons en tant que disciples pour lui permettre d'accomplir son œuvre par nous. La barque n'est pas tant l'image de l'Église, mais bien plutôt celle du temple qui est dirigé par des disciples au milieu de Jésus et qui est immergé dans la mer qui représente le monde pour aller à la rencontre de ceux qui n'ont pas encore la foi. Mais ne nous y trompons pas. C'est Jésus qui nous demande de tenir la barque à sa disposition. Elle n'est pas pour les disciples, elle est pour Jésus. De même, le temple n'est pas pour nous, mais il est pour Jésus. Ce n'est pas nous, par ailleurs, qui invitons Jésus à y monter. Ce n'est pas nous qui l'embarquons et l'amenons là où nous voulons. Oh, parfois, ça arrive. Ça arrive même peut-être bien souvent. Et Jésus se laisse faire, parce que il contrôle tous les changements de cap. Mais cela ne devrait pas arriver en principe. Ainsi, puisque la barque est appelée à être à la disposition de Jésus, nous sommes appelés à la lui remettre, mais aussi à la laisser quand il n'en a plus besoin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un temps où Jésus va utiliser la barque ou bien le temple, et un temps où il va utiliser d'autres moyens pour accomplir son œuvre. Verset 11, « Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne. » La montagne symbolise la relation verticale de Jésus avec son Père. Dans la Bible, il y a deux montagnes en particulier, comme le dit Hébreux 12, que sont d'un côté le mont Sinaï, qui symbolise l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament, et de l'autre, eh bien, la montagne de Sion, qui symbolise la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance qui est arrivée à sa maturité. La montagne n'est pas seulement le lieu de la relation avec Dieu, la relation verticale avec Dieu. Jésus n'aimait pas seulement s'y retirer pour prier, pour être seul dans l'intimité avec son Père, mais il aimait aussi y être avec ses disciples, de différentes façons. Des fois en petit nombre, comme dans ce passage, ou bien pour prier, comme sur le mont des Oliviers, avant d'être arrêté et de connaître sa passion, ou bien en très grand nombre, comme dans le sermon sur la montagne, ou bien encore avec quelques-uns simplement pour révéler sa gloire, comme dans la transfiguration. Ainsi, l'image est la montagne est bien plutôt l'image de l'Église en tant que réseau de disciples qui sont en relation avec le Christ, alors que la barque est plutôt l'image du temple comme figure, lieu d'ouverture et de recherche de l'autre. La montagne est double. À la fois, on peut s'y cacher, être à l'abri des regards pour être en intimité, et à la fois, on peut aussi être complètement à découvert selon les endroits où on se trouve, en particulier au sommet. Chacun peut ainsi nous voir, et nous sommes exposés au regard de tous. À la fois, notre vie est cachée en Christ, entretenue dans l'intimité avec Dieu, et en même temps, nous ne pouvons pas rester que dans cet état, comme certains mystiques, parce que Jésus nous appelle en tant que disciples à former une ville lumière, qui se trouve sur le sommet de la montagne, à découvert, comme il le dira sur le sermon sur la montagne. Une ville faite pour briller, pour servir de repère, et pas pour garder sa lumière pour elle. Une ville qui est à découvert, mais qui, au contact de Dieu, voit les choses d'en haut et peut avertir ceux qui sont en bas des dangers éventuels qui arrivent, comme les prophètes. Ainsi, par la barque, les disciples deviennent les pieds et les mains de Jésus aujourd'hui pour aller à la rencontre de l'autre, pour les guérir, les aider, les nourrir, les soulager de leurs maux, dans une dimension humaine, de berger, d'évangéliste, d'apologète. Et sur la montagne, ils sont appelés à être plutôt des prophètes et des enseignants. Jésus appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu cette phrase, elle m'a un peu interpellé. Il appela ce qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Je dirais même que cette phrase, elle peut sonner quelque part douloureusement pour nous. Pourquoi Jésus a-t-il choisi d'appeler ceux qu'il a voulu? Pourquoi a-t-il appelé certains et pas d'autres? Ceux qui sont restés en bas de la montagne sont-ils moins que les autres? Jésus ne se montre-t-il pas injuste ici? C'est comme nous parfois. Nous voyons certains être appelés par Dieu pour travailler à plein temps, pour être missionnaires ou pour avoir une charge bien précise dans l'Église. Et nous avons l'impression, peut-être de ne servir à rien. Nous pouvons nous demander à quoi nous servons. Pire, nous pouvons finir par nous demander si Dieu nous aime vraiment. En effet, le fait qu'il appelle pour être auprès de lui ceux qu'il veut, c'est que cela, il doit les agréer, il doit les apprécier, il doit les aimer particulièrement, sinon il ne les appellerait pas. Si Jésus ne m'appelle pas, c'est sûrement parce que il doit moins m'aimer que d'autres. Alors d'abord, qui sommes-nous pour contester les choix de Jésus ? Sommes-nous comme Job, pensant savoir mieux que Dieu ce qu'il doit faire comme choix ? Et puis ensuite, Jésus et son Père nous aiment d'une manière différente, mais telle que nous sommes. Comme des parents aiment leurs enfants de façon différente et telle qu'ils sont. Mais il n'y a pas d'un côté les privilégiés qui sont au service du Seigneur à plein temps ou qui ont une révélation précise de leur tâche pour lui et d'autres qui ne le sont pas. Chacun est placé par la tête, qui est le Christ, là où c'est le mieux pour lui. Certains ont des ministères publics qui servent le grand nombre et d'autres peut-être, qui sont encore plus utiles sont dans l'ombre et servent simplement autour d'eux par des gestes simples ou en apportant quelques paroles d'amour. Les deux sont nécessaires, parce que ceux qui touchent le grand nombre ne peuvent pas aller forcément dans le détail de la relation, et inversement, ceux qui vont dans le détail de la relation ne peuvent pas toucher le grand nombre. Faisons ainsi attention, parce que, au lieu de nous laisser absorber par l'appel des autres, nous risquons finalement de ne pas entendre l'appel de Jésus quand ce sera le nôtre, le moment. Mais au-delà de cela, je voudrais relever que Jésus appelle ceux qu'il a choisis pour être auprès de lui. Jésus n'appelle pas forcément pour servir ici. Jésus n'a pas nécessairement besoin que nous le servions. Ce à quoi il aspire d'abord et premièrement, c'est d'être en relation avec nous, comme Dieu désirait être en relation avec l'homme dès la création. Jésus désire ainsi construire une relation avec nous et pas qu'on soit auprès de lui pour nécessairement le servir. Sur ceux qu'il appela, il en établit 12 pour être avec lui et les envoyer en mission. Plus tard, il en enverra 70. Mais beaucoup de disciples n'ont pas eu l'occasion d'avoir une mission précise de sa part. Ils furent simplement auprès de Jésus. Ils le côtoyèrent dans leur quotidien, ils ont appris à le connaître et à se connaître eux-mêmes pour devenir ceux que Dieu désira qu'ils soient. Et sans forcément que Jésus les établisse dans un service, dans un ministère précis, ils ont commencé à changer de vie, à parler aux autres de Jésus, de Dieu, du royaume de Dieu, à aimer leurs prochains, etc. En étant auprès de Jésus, en l'adorant, ils finissaient par le servir tout naturellement. Notons encore que cette phrase demeure parmi les mystères de la Bible, qui rejoignent la question de la grâce et de la prédestination. Jésus a appelé ceux qu'il a voulu, et Dieu a prédestiné ceux qu'il a voulu pour célébrer sa gloire, dira Paul en Romains. Mais encore, fallut-il que ceux que Jésus a appelés veuillent bien monter sur la montagne pour être auprès de lui, et que ceux que Dieu a prédestinés répondent à l'attirance que Dieu a opérée en eux par son Esprit Saint. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Notons encore cette différence. Il appela certains pour être auprès de lui, et il en établit 12 pour être avec lui. À ceux qu'il a appelés pour être auprès de lui, Jésus ne demande rien, a priori, si ce n'est d'être auprès de lui. Il ne leur demande pas d'être avec lui. Il ne leur demande pas de rentrer je dirais, dans une intimité comme vont l'être les douze qui vont partager plus que tous les autres la fin de sa vie. Alors, quelque part, c'est plus simple pour ceux qui ne sont pas parmi les douze. Et en même temps, c'est aussi plus compliqué. Parce que c'est aussi plus facile et plus tentant de quitter la présence et l'entourage de Jésus pour aller ailleurs, pour papillonner. On peut avoir l'impression que les disciples ont plus de liberté que les apôtres et que quelque part ils ont plus de chance que les douze, mais en fait leur liberté est aussi un piège qui peut les pousser à tomber. Ainsi, le disciple qui sera resté auprès de Jésus, en tenant ferme, aura témoigné d'une fidélité empreinte d'une grande valeur. Pour conclure, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Il y avait un petit garçon qui avait l'habitude de venir dans le bureau de son papa et il avait toujours quelque chose à lui demander. « Dis papa, tu peux me donner à manger ? Dis papa, tu peux jouer avec moi ? Dis papa, et si on sortait dehors ?» Bref, il avait toujours quelque chose, même des fois une toute petite chose à lui demander. Et puis un jour, les petits coups répétés se firent entendre à la porte. « Entre !» cria le papa. Comme l'enfant entrait et restait silencieux au milieu de la pièce, son papa lui dit « Eh ben alors, parle, dis-moi ce que tu veux. »« Rien, je ne veux rien. »« Comment ça, rien ? Mais n'aie pas peur de me dire ce que tu veux. »« Mais rien, papa. » « Je veux simplement rester dans ton bureau, avec toi. Je ne ferai pas de bruit. Je vais me mettre là, dans un coin, avec un jouet. Je veux simplement rester avec toi. » Et le père, ému de voir que son fils avait simplement envie d'être avec lui, auprès de lui, sans rien forcément lui demander, l'a autorisé. Alors le petit garçon s'est assis dans un coin du bureau avec son jouet en veillant à ne pas déranger son papa. Comme son papa devait être heureux de voir que son enfant pouvait venir le trouver, même sans avoir rien à lui demander, même sans chercher à vouloir faire quelque chose, simplement pour être auprès de lui. Que nous soyons dans la barque ou sur la montagne, que nous soyons auprès de Jésus ou avec Jésus, que nous soyons juste appelés auprès de lui ou engagés dans une vocation, un ministère, que nous soyons plutôt actifs comme Marie ou actifs comme Marthe et contemplatifs comme Marie, nous sommes appelés à vivre en toutes circonstances et en tout lieu dans la présence de Dieu chaque jour. Parce que c'est là que se trouve la bénédiction. Heureux l'homme qui sait jouir de la présence de Dieu. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Heureux l'homme qui sait jouir de la présence de Dieu. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite.